Et tout de suite, Philippe, c'est l'infomédia du jour.
L'infomédia du jour, Mediapart n'a plus d'actionnaires. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est presque une révolution. Celle accomplie par le site payant d'information pour renforcer son indépendance qui faisait déjà partie de son ADN. Le site, créé en 2008 et dont la courte histoire est déjà jalonnée de révélations et de scoops retentissants comme les affaires Woerth-Bettencourt, Sarkozy-Kadhafi, l'affaire Cahuzac, Benalla et la dernière en date, les fameux homards du ministre François de Rugy qui l'ont conduite à démissionner. Alors pour bien comprendre ce qui se passe à Mediapart aujourd'hui, il faut savoir que jusqu'à présent, le capital du site était détenu à 42% par ses quatre fondateurs, dont Yves Plenel, ancien patron du journal Le Monde. Le reste appartenait pour partie aux salariés et à une société des amis et à deux investisseurs partenaires, Doxa et Cofinance. Ce montage capitalistique complexe est révolu. Mediapart a sanctuarisé donc son capital qui a été acquis par une structure non capitalistique à but non lucratif. Désormais, il n'y a plus d'actionnaires. Le capital n'est aujourd'hui ni cessible, ni achetable, encore moins spéculable. J'apprends des mots. C'est ce que Mediapart écrit sur son site. Pour en parler, je reçois Edu Plenel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de Mediapart, son président. Alors, pour les lecteurs, pour les auditeurs, ça ne faisait presque aucun doute que Mediapart était indépendant. Alors, pourquoi ce changement capitalistique ?
Le défi de l'indépendance économique, on n'est jamais sûr que ça dure tout le temps. Regardez Libération, Le Monde, selon des engagements qui avaient été pris après la Deuxième Guerre mondiale, une presse corrompue, une presse soumise à des intérêts privés ont essayé de faire vivre ce qu'on appelle un actionnariat salarié, où il n'y avait pas seulement la bataille pour l'indépendance éditoriale, je suppose que vous l'amenez ici, que tout le monde l'amène, quelles que soient toutes les rédactions l'amènent, quels que soient les contextes. C'est l'obligation de notre profession. Nous sommes d'abord responsables devant le public et pas devant nos actionnaires ou devant nos propriétaires. Mais il y avait cette idée de mettre dans l'écosystème médiatique des sortes de lieux idéaux où le capital était contrôlé directement par les rédactions. C'est-à-dire qu'à l'indépendance éditoriale s'ajoutait l'indépendance économique. Vous connaissez la suite. Crise, difficultés, révolution industrielle, Le Monde, Libération ont perdu leur indépendance économique. Ouais. Ils appartiennent à des actionnaires privés extérieurs au métier de l'information.
Vous interromps pour parler du Monde, parce que vous parlez de la sortie de la guerre et de la Libération en étant en 45, mais là maintenant, est-ce que vous avez été instruit ou échaudé par la crise récente qui a secoué le journal Le Monde ? Je rappelle l'arrivée du tchèque Daniel Kretensky au capital de la société de Mathieu Pigas et son conflit de Pigas avec l'autre actionnaire Xavier Niel.
Nous sommes instruits depuis la création de Mediapart. Mediapart vient de la crise du Monde et de la crise de Libération. Ouais. Nous, on a voulu faire un journal indépendant, vous l'avez rappelé, par notre travail d'information, mais on avait un autre défi, c'est arriver à prendre une revanche par la création en tant que structure, en tant que journal, d'un journal totalement indépendant économiquement, puisque moi, j'ai assisté à cette défaite. J'ai assisté à la prise en main du Monde par des intérêts privés. J'ai perdu cette bataille. Mmh. J'ai dit, vous allez voir, vous allez vous battre et vous tuer les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est une tuerie. Ça a d'abord commencé par une tuerie entre journalistes. Et maintenant, c'est une tuerie, on en parlera peut-être, entre capitalistes, entre M. Pigas et M. Niel. Donc nous, les fondateurs de Mediapart, on voulait premièrement faire ce journal indépendant auditorialement avec les scoops, etc. Ouais. Mais on voulait absolument trouver une réponse inédite, car on avait compris que le fait que les salariés contrôlent le capital ne résistait pas en cas de crise. En cas de crise, ça devenait un enjeu de pouvoir, ça devenait une bataille, et du coup, l'indépendance était perdue.
Qu'est-ce que vous appelez une crise ? C'est le fait de ne plus avoir de revenus, c'est le fait de ne plus avoir d'argent, c'est ça la crise.
Y a parfois des révolutions industrielles qui obligent à se mettre en cause. Il y a parfois des difficultés que traversent les médias. Donc nous, on a voulu trouver une solution qui rende irréversible l'indépendance de Mediapart. Et notre modèle était ce qui existe en Grande-Bretagne, le trust du Guardian. Alors là, c'est lié à une vieille famille écossaise. C'est-à-dire qu'il y a un trust qui dont le rôle est de garantir de manière à perpétuité l'indépendance économique en faisant des réserves de façon à ce qu'en cas de difficulté, il soit possible d'aider le Guardian pour préserver son indépendance.
D'un mot, qu'est-ce que ça a de neuf ? Parce que tout le monde essaie de faire des réserves en cas de coup dur, c'est le principe de l'assurance.
La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire extérieur qui veut défendre des intérêts extérieurs au journalisme. Nous ne sommes pas, à Mediapart, à la merci d'une pression de quelqu'un qui a des intérêts dans la téléphonie mobile, dans les ventes d'armes, dans la finance. Donc, du coup,
mais c'était déjà le cas auparavant. Je veux dire, ça me rappelle la blague de Coluche, plus blanc que blanc. Pardonnez-moi, moi, j'ai l'impression que vous étiez déjà très indépendant. Donc, vous êtes plus indépendant qu'indépendant.
Avant, cette indépendance, elle était garantie par le fait que les fondateurs contrôlent le capital. Ouais. Ils ne sont pas éternels, les fondateurs.
Ah, oui.
Nous, on ne voulait pas donner ça à nos enfants. On ne voulait pas vendre ça aux plus offrants. Et on voulait... encore une fois, inventer quelque chose pour donner Mediapart à l'équipe, que l'équipe contrôle Mediapart, mais qui soit nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé et qui est utile à tout le monde ? Car, à mon avis, ça va faire école dans le système médiatique. C'est un fonds pour une presse libre, qui est le statut de fonds de dotation, et qui, du coup, maintenant... contrôle 100% du capital de Mediapart.
On va parler de ce fonds et voir quelles conséquences pour la presse française, puisqu'on en parlait, on parlait de la crise récente au Monde. Juste une info sortie par Mediapart, tous les journaux disent que c'est eux qui l'ont sortie, mais c'était vous, mercredi, Mathieu Pigas, le PDG de la banque d'affaires Lazard France, actionnaire du Monde, il est aussi dans les Inroc et dans Radio Nova, va démissionner de la banque. Réaction.
Oui, c'est Laurent Mauduit qui a révélé ça mercredi. Et c'est assez peu confraternel que les journaux concernés, notamment Le Monde, ne le rappellent pas. Donc, en effet, c'est la clé de ce qui se passe au Monde. En fait, M. Pigas est pris à la gorge parce qu'il a fait des investissements dangereux. Donc, du coup, il a besoin d'argent. Et c'est pour ça qu'il est en fragilité vis-à-vis de l'autre oligarque qui contrôle Le Monde, M. Niel. Alors, du coup, la rédaction du Monde s'abrite derrière M. Niel. Je préférerais, si j'étais elle, qu'elle s'abrite derrière un modèle comme celui de Mediapart, qui est beaucoup plus protecteur, c'est-à-dire être contrôlé par une structure non capitaliste.
Mais d'un mot, parce qu'ici on est une émission média et l'heure tourne, le fait qu'il démissionne d'une banque n'a strictement rien à voir avec ses activités dans la presse. C'est juste deux événements indépendants.
Non, ça a à voir. C'est-à-dire qu'il démissionne de Lazard parce que, en fait, le patron de Lazard lui a demandé de démissionner parce que lui-même est en difficulté. Il est en difficulté dans des investissements aventurés. Alors, s'il est en difficulté, ça veut dire que, du coup, sa participation au Monde, qu'il présentait comme un truc, j'aide la presse et tout, en fait, il veut qu'on lui donne de l'argent. Il la veut sonnante et trébuchante. D'où la bataille entre lui et M. Niel, le patron de Free.
Le fonds lancé par Mediapart, on en parle juste après ça.
Et oui, on continue dans un instant à parler de Mediapart qui a rendu son indépendance totale. Alors restez avec nous pour la suite de l'Infomédia du jour sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Depuis sa création, Mediapart a toujours été totalement indépendant, mais le média vient de franchir une marge de plus en le devenant aussi économiquement. Et du Plenel nous en dit plus, Philippe Vandel, dans la suite de l'Info Média du jour.
Et depuis sa création, Mediapart n'a pas toujours été rentable, mais c'est assez rare pour être signalé. C'est le seul pure player, le site seulement d'information en ligne qui est rentable depuis...
Je précise, on est rentable depuis fin 2010, c'est-à-dire ça fait quand même 9 ans maintenant.
Ça va être ma question.
Ça fait 9 ans et nous sommes, et ce qui est la bonne nouvelle pour toute la profession, c'est que Mediapart, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de mécène. Donc on peut faire une entreprise de presse rentable qui crée des emplois, qui donne confiance dans le journalisme, puisqu'on a commencé avec 25, on est aujourd'hui 90 salariés. On peut le faire simplement en faisant du journalisme, du journalisme, du journalisme, créant la confiance avec le public. Aujourd'hui, depuis ces 9 dernières années, Mediapart a un taux de rentabilité comme entreprise qui est unique dans le secteur. Notre taux de rentabilité est entre 17 et 18% de résultats
vous connaissant...
par rapport au chiffre d'affaires. C'était mon défi. Mon défi était un défi d'entrepreneur. Il y a beaucoup de malentendus par rapport à...
Bien sûr, j'allais dire, moi, depuis le temps que je vous connais, que je suis dans votre carrière, j'aurais jamais imaginé voir Edwy Plenel prononcer le mot taux de rentabilité.
Mais moi, mon défi à Mediapart n'était pas un défi de journaliste. Le journaliste d'investigation, j'avais fait ça avant.
Au Monde.
Mon pari, là, c'était qu'une équipe le fasse. Et l'équipe le fait formidablement bien avec toute une nouvelle génération. Mon pari était un pari d'entrepreneur.
Combien d'abonnés ?
Aujourd'hui, 170 000 abonnés individuels payants.
Alors, je vais essayer d'expliquer. Mediapart était détenu à hauteur de 42% par ses 4 cofondateurs. Vous-même, François Bonnet, Laurent Mauduit et Marie-Hélène Smiedjan. J'espère que je prononce
Smiedjan.
Bien. Smiedjan, pardonnez-moi. Le reste appartenant aux salariés, à une société des amis avec qui il formait un pôle d'indépendance. Le reste des actions appartenaient à des investisseurs partenaires. Les actions de Mediapart ont toutes été rachetées ?
100%. Mardi dernier, le mardi 15 octobre, elles ont été rachetées via une société pour la protection de l'indépendance de Mediapart par ce fonds pour une presse libre qui a le statut, vous pouvez regarder sur internet, d'un fonds de dotation. Ça existe depuis 2008. Pour le dire tout simplement, ça a la souplesse juridique des associations et la souplesse financière des fondations. Simplement, dans le droit français, les fondations ont un vrai problème, il y a un représentant de l'État. Un journal indépendant ne peut pas être avec un représentant de l'État.
D'accord. Est-ce que les investisseurs du début ont retrouvé leur mise? Est-ce qu'ils ont fait une plus-value?
Ils ont tous fait une plus-value. Les amis, tout le monde a fait une plus-value. Simplement, ce qu'il faut noter, puisque nous n'avons pas voulu alourdir, il faut que ce soit soutenable par Mediapart. Il ne faut pas que Mediapart se retrouve avec un endettement qui l'empêcherait d'investir. On investit 1 million d'euros chaque année. Donc, du coup, il y a un emprunt de 5,5 millions au crédit coopératif à un taux, tout est transparent chez nous, de 1,18%. Il y a nos réserves qui sont en partie utilisées, 4 400 000 euros. Et puis le reste, c'est des prêts, c'est-à-dire des crédits vendeurs, c'est-à-dire qu'une partie de, nos, de ceux qui pourraient gagner de l'argent ne touche pas leur argent. C'est le cas des fondateurs.
Ah oui ?
Nous laissons une part, notre argent jusqu'en 2027, pardon, de façon à ne pas alourdir l'endettement de Mediapart. Et puis il faut noter que parmi les gens qui nous ont soutenus, y compris contre leurs intérêts, car c'est un homme d'affaires très puissant et très important et qui connaît beaucoup de monde. Je parle de M. Jean-Louis Bouchard, d'Econocom. Il avait mis 500 000 euros au début de Mediapart. Il en sort avec 1 million. Eh bien, savez-vous quoi ? Il les donne.
Magnifique.
C'est assez rare pour être souligné.
Alors techniquement et volontairement, vous avez construit un sacré mécano. Donc les actions de Mediapart ont toutes été rachetées dans une nouvelle structure. Elle-même propriété d'un fonds, le fonds pour une presse libre. Que va faire ce fonds en dehors de Mediapart ?
Alors, c'est vraiment la question la plus importante. À titre secondaire, il protège Mediapart. Il met son capital dans un coffre-fort de façon, vous l'avez dit, qu'il soit incessible, non spéculable, non achetable et tout. Mais ce n'est pas sa mission principale. Sa mission principale, c'est d'aider à l'indépendance du journalisme, à la liberté de la presse et au pluralisme de l'information. Il n'a pas le droit... Les dons qui lui sont donnés, qui peuvent être défiscalisés, 66% pour des particuliers et 60% pour des entreprises, ne peuvent pas aider Mediapart. Ce serait un conflit d'intérêts. En revanche, Mediapart doit renvoyer un peu de son argent, de ses résultats, dans le fonds. Nous devons aider le fonds. Et le fonds doit aider ce que je viens de dire, c'est-à-dire le journalisme, la profession, donc, son indépendance et notamment la presse numérique pour qu'il y ait d'autres journaux
indépendants.
Donc vous
êtes capable d'aider, c'est même dans votre cahier des charges, d'aider de futurs concurrents.
C'est le but. C'est le but du fonds pour une presse libre dont le conseil d'administration ne comporte aucun des dirigeants de Mediapart. Nous n'avons pas le droit d'y être. Tant que nous sommes salariés de Mediapart, nous pouvons y être. Et il y a des personnalités très indépendantes, je voudrais le souligner. Il y a Christine Lazerge, l'ancienne présidente du conseil consultatif des droits de l'homme. Dominique Cardon, qui est, vous l'avez peut-être reçu parfois, un sociologue sur le numérique qui dirige le principal laboratoire de Sciences Po. Tout cela vont s'occuper de l'indépendance de ce fonds.
Je vous interromps car j'ai une dernière question. Un mot sur la dernière affaire en date, les fameux homards du ministre François de Rugy, ces dîners somptuaires à l'hôtel de la Cesse, ça vous fait sourire. Les travaux de rénovation. François de Rugy a annoncé vouloir vous attaquer en justice. Où en est cette plainte et quand l'affaire sera-t-elle jugée?
C'est tout simple. Il a fait une plainte. Il y a une dizaine d'articles sur un seul des articles, celui qui concerne le logement à vocation sociale
en Loire-Atlantique.
Qu'il avait en Loire-Atlantique. C'est une plainte en diffamation classique. Ce procès, s'il a lieu, aura lieu. C'est l'audience qui a été fixée début 2021. Mmh. Nous sommes très sûrs de nous et nous comptons bien montrer à la fois la vérité de notre information et notre bonne foi. Donc nous avons rendez-vous, comme c'est normal. Nous rendrons compte dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. Mais M. de Rugy en a fait des tonnes pour finalement une toute petite plainte.
Merci beaucoup Edwy Plenel, fondateur et directeur de Mediapart, qui, je le précise, n'a plus d'actionnaire. Ne cherchez pas.